Quand on est parent, il est important de bien veiller à ne pas exiger de ses enfants des comportements qui ne correspondent pas à leur niveau de maturité. Autrement, ils se décourageraient et penseront « à quoi bon essayer ? De toute façon, je n'y arriverai pas ». C'est vrai dans tous les domaines, que ce soit la coordination physique, la compréhension mentale ou le comportement moral. Dans le premier chapitre de sa première épître, Jean a encouragé ses lecteurs à marcher dans la lumière, c'est-à-dire à obéir à la volonté de leur Père céleste et à lui avouer les fautes dont ils se rendent coupables. En agissant ainsi, le croyant marche dans le sillon de Dieu qui est lumière, tout en étant purifié par le sang que Jésus a versé pour lui. Cependant, l'insistance de l'apôtre sur le fait que même les croyants ont une nature pécheresse et commettent des fautes pourrait en décourager certains qui, pourtant, aspirent à mener une vie droite. Pourtant, le but de Jean est exactement le contraire, puisqu'il veut mettre les croyants en garde contre le péché. D'ailleurs, dès le début du chapitre 2, il dit « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » Verset 1. L'enseignement du Nouveau Testament est que les fidèles à Jésus-Christ, contrairement aux non-croyants, ne sont plus esclaves du péché, mais ont reçu les moyens de mener une vie droite, agréable à Dieu. L'apôtre Paul écrit « Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Car le péché ne sera plus votre maître puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. La loi de Moïse demandait beaucoup aux Israélites, mais ne leur donnait pas le pouvoir de satisfaire ses exigences, ce qui fait qu'elle n'était jamais un moyen de salut, mais uniquement de condamnation. Jean n'est pas appelé l'apôtre de l'amour pour rien, car on sent sa tendresse et la relation d'affection qu'il unit à ses lecteurs, qu'il appelle « mes chers enfants ». Une désignation qui apparaît 6 autres fois dans cet épître et une fois dans son évangile. Par ailleurs, Jean utilise aussi un mot très semblable qui veut simplement dire « enfant » dans son évangile et dans les 3 épîtres. Ici, il leur écrit afin qu'ils ne se laissent pas aller à leur tendance naturelle, c'est-à-dire à faire chacun comme bon lui semble. Il veut au contraire les encourager à adopter continuellement une conduite droite. En cela, l'apôtre fait écho à l'exhortation de Paul qui écrit « Mais quoi, allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce ? Loin de là, ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez ?» ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué. Si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Fin de citation. Lorsqu'un croyant tombe dans le péché, Dieu lui pardonne, mais ce pardon ne doit jamais être une excuse pour continuer à vivre comme bon lui semble, car le péché est une affaire extrêmement grave qui conduit chaque être humain devant la cour suprême de Dieu. En Occident, nous vivons une époque de voyeurisme où le procès de toute personnalité fait les choux gras des masses médias. Ce divertissement nous est gratuitement offert par le système judiciaire pour étancher la soif de sensationnalisme de notre culture blasée. Mais bien au-delà de ces bagatelles, se joue un drame judiciaire cosmique dont la portée dépasse infiniment tous les procès humains. Dieu le Père est le juge, Satan l'accusateur et toute personne qui a jamais vécu sur terre se tient à la barre des accusés, coupables d'avoir transgressé la loi sainte de Dieu. Le verdict est simple et certain parce que le salaire du péché, c'est la mort. La question qui se pose est donc de savoir comment un pécheur injuste peut être déclaré juste devant le Dieu trois fois saint. Je continue le texte de l'épître de Jean. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Verset 1. Cette apparition du mot « avocat » est de mauvais augure car il montre que la cause du pécheur n'est pas bonne. En fait, comme il est dans tous ses torts vis-à-vis du Père, il n'a rien à dire pour sa défense et a désespérément besoin d'aide. Si la cause des coupables n'est pas perdue, c'est uniquement parce qu'il existe un avocat pour tous ceux qui croient en Jésus pour leur salut. Cependant, sa façon de défendre ses clients est tout à fait inhabituelle, car il ne tient aucun d'entre eux pour innocent et n'invoque jamais de circonstances atténuantes comme ça se fait couramment dans les tribunaux humains. Pourtant, même s'il n'a rien de bien à dire sur nous, il peut beaucoup pour nous, car il n'a jamais perdu un procès et n'en perdra jamais. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à côté de lui, le Père a donné son accord une fois pour toutes à toutes les demandes de son Fils pour ceux qui placent en lui leur confiance. En conséquence, les accusations vraies et justifiées que Satan porte contre les enfants de Dieu jour et nuit ne sont pas recevables. Utilisant un vocabulaire judiciaire, Paul a déclaré « Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera ? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Ces paroles du grand apôtre prouvent que le Seigneur Jésus gagne tous les procès où il prend la défense de ceux qui comptent sur lui. Il intercède en leur faveur auprès du Père sur la base de son sacrifice qui a payé la totalité de notre dette en répondant à toutes les exigences de la justice de Dieu. Dans ses épîtres, l'apôtre Paul explique que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous en sorte que Jésus, qui n'était pas pécheur, a pris sur lui tous les péchés du monde, afin que ceux qui croient en lui soient déclarés justes. De ce fait, Dieu demeure juste tout en graciant les coupables. Ce que Jean a déjà souligné précédemment quand il a écrit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis ». Dans la phrase « Si quelqu'un vient à pécher », Jean utilise un verbe qui est très fréquent dans le Nouveau Testament et qui signifie « manquer la cible ». Mais les écrivains sacrés l'utilisent pour dire que l'homme passe à côté de la norme divine qu'il devrait respecter. Jean conjugue ce verbe de manière à indiquer qu'il y a une très forte probabilité que les croyants, lui inclus, vont pécher car dans cette vie, ils ne deviendront jamais complètement exempts de faute. Cependant, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une faute occasionnelle et non d'une habitude, car vivre continuellement dans le péché est incompatible avec une vie chrétienne authentique. Donc, dit Jean, si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Le mot pour avocat signifie littéralement quelqu'un qui vient aux côtés de quelqu'un d'autre. Ici, où le contexte est juridique, ce mot désigne celui qui défend une personne mise en examen. Jean est le seul auteur du Nouveau Testament à utiliser ce mot et dans son évangile, il est rendu par consolateur, défenseur ou conseiller. Jean l'applique alors au Saint-Esprit, ce qui montre, d'une part, l'unité entre la seconde et la troisième personne de la Trinité, et d'autre part, que le croyant à deux intercesseurs, un dans le ciel et l'autre sur terre. Le fait que Christ soit appelé le juste est important. Nous aurions pu nous attendre à lire le miséricordieux ou quelque chose de semblable, mais c'est sa justice, son obéissance stricte à la loi de Dieu et son endurance jusqu'à la croix où il a payé notre dette, qui est à la base de sa demande pour notre acquittement. Tout l'enseignement du Nouveau Testament concourt à montrer que c'est selon la justice que Dieu gracie. Le pardon n'abolit pas la loi morale, mais la confirme, car si j'ai besoin de pardon, c'est bien parce que je suis coupable, ayant transgressé la loi. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur ou grand prêtre s'interposait entre le peuple et l'Éternel. Jésus joue dorénavant ce rôle, mais seulement pour ceux qui avouent leur culpabilité et leur besoin de lui comme sauveur. Alors, et alors seulement, il les accepte pour clients et devient leur avocat. Je continue le texte de 1 Jean. Car Jésus a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Verset 2. En tant qu'avocat de la défense, Jésus peut gagner tous les procès où il défend les croyants parce qu'il est bien placé pour savoir que le salaire de leur péché a déjà été payé, puisque c'est lui qui a subi de plein fouet la colère de Dieu. Littéralement, le texte dit que Jésus est propitiation pour nos péchés, un mot très théologique qui signifie apaisement, satisfaction. Dans l'économie divine, il fallait que justice soit faite et sur la croix, Jésus a pleinement satisfait cette exigence. Dans l'Ancien Testament, le propitiatoire était le couvercle de l'Arche de l'Alliance. Il se trouvait dans le lieu très saint, dans lequel, une fois par an, pour le Yom Kippour, le jour des expiations, aussi appelé le grand pardon, le grand prêtre entrait afin d'asperger le propitiatoire de sang. C'est là que les péchés étaient couverts, ce qui apaisait la colère de l'Éternel en attendant que Jésus vienne et offre le sacrifice parfait qui satisferait pleinement sa justice. Par amour pour nous, le Fils de Dieu s'est offert volontairement en sacrifice propitiatoire afin de prendre sur lui le jugement de Dieu qui nous était destiné. C'est vrai que la colère de Dieu ne fait pas recette. Ce n'est pas un concept dans le vent ou qui plaît à l'esprit moderne. Cependant, et comme j'aime à le répéter de temps en temps, l'erreur à ne pas commettre est de jouer à la politique de l'autruche qui cache sa tête dans le sable parce qu'on n'aime pas l'idée d'un jugement. Il nous faut regarder la vérité en face parce que c'est une question de vie ou de mort éternelle. Jean précise que Jésus s'est offert pour les péchés du monde entier. Alors que le rôle d'avocat de Jésus n'est que pour les croyants, la valeur de son sacrifice s'étend effectivement à toute l'humanité. Luther a dit « Toi aussi, tu fais partie du monde et il ne faut pas que ton cœur te trompe et que tu penses « Le Seigneur est mort pour Pierre et Paul, mais pas pour moi ». L'apôtre Jean veut rappeler à ses lecteurs l'étendue infinie dans l'espace et dans le temps du sacrifice expiatoire de Jésus afin qu'ils sachent, sans l'ombre d'un doute, que la justice de Dieu a été entièrement satisfaite. L'Éternel n'est plus en colère contre nous, mais il tend ses bras bienveillants et est prêt à nous accueillir. Voilà pourquoi la bonne nouvelle doit être annoncée à tout être humain, les bons et les mauvais, les musulmans, les hindous et tous les autres. Peu importe la race ou la religion de quelqu'un, quand Jésus est mort sur la croix, c'était aussi pour lui. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean rapporte les paroles d'un cantique nouveau qui est « Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang répandu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Cependant, et comme l'enseigne le Nouveau Testament, le salut n'est pas automatique. Il faut que chaque personne l'accepte en plaçant sa foi en Jésus et en lui seul. Et c'est bien là que le bât blesse. C'est tragique parce que la croix a effectivement apaisé Dieu et a si bien répondu à toutes ses justes exigences que sa grâce, sa miséricorde et son pardon sont abondamment à la disposition aussi bien de ceux qui sont sauvés que des incroyants. Je continue le texte de 1 Jean. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Verset 3. Dans cette courte phrase, Jean emploie deux fois le même verbe « connaître », qu'il utilisera encore 21 fois dans cet épître, ainsi qu'un synonyme qui lui reviendra 6 fois. Jean exprime ici une certitude. Il ne dit pas « nous espérons, nous pensons ou nous aimerions », mais « nous savons », qui est le présent du verbe « savoir » et qui signifie « avoir de la connaissance par expérience. Cette assurance provient de l'obéissance au commandement des Écritures. Nous savons que nous l'avons connu. Le deuxième emploi du verbe connaître traduit une action passée, une fois pour toutes, mais dont les effets continuent dans le présent. Pour Jean, la connaissance n'est ni mystique et secrète, ni rationnelle et cartésienne, ni sentimental et sensuel. Il parle de la connaissance intime de Dieu au travers de Jésus. La connaissance pour seulement en savoir plus mène nulle part, car il faut qu'elle se manifeste concrètement par des œuvres dignes de Dieu. Ce n'est pas tout de dire « encore faut-il faire ». Parlant de certains hommes souillés et incrédules, l'apôtre Paul écrit « certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles et se sont disqualifiés pour toute œuvre bonne. » Fin de citation. Par contre, ceux qui connaissent vraiment Dieu mènent une vie sainte, conforme à l'enseignement du Christ et des apôtres, car ils ont les lois de Dieu écrites dans leur cœur et les vivent. L'obéissance dont parle Jean n'est pas une pratique légaliste ni des rites superficiels accomplis pour la forme, mais une attitude qui émane de la vérité ancrée dans son cœur. Quand Jean dit « à ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu », il ne précise pas « qui nous avons connu » parce que pour lui, Jésus et le Père sont si intimement liés qu'une distinction entre les deux personnes de la Trinité serait hors de propos. Notre communion est avec le Père et le Fils, et connaître l'un d'eux, c'est forcément aussi connaître l'autre. À ceux qui prétendent connaître Dieu tout en vivant dans le péché, Jean répond en affirmant que connaître Dieu, c'est être en communion avec lui et que cette communion implique l'obéissance à ses commandements et en particulier à aimer les frères. Quand Jean dit « si nous gardons ses commandements », le verbe « gardons » pourrait être traduit par « protégeons ». En d'autres mots, les croyants désirent obéir aux commandements divins parce que pour eux, ils sont précieux. L'apôtre Jean va encore utiliser l'expression « obéir »,« pratiquer » ou « garder ses commandements » 4 fois dans l'Épître. Il dira par exemple « aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements ». Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Jean désire que l'obéissance de ses lecteurs provienne du cœur, de leur amour pour le Seigneur et pour ses commandements. Le mot pour « commandement » ne vient pas du mot « habituel pour « loi », mais d'un terme qui signifie « injonction »,« ordre » ou « sommation ». C'est important parce que ça veut dire que Jean ne parle pas des 10 commandements qui furent donnés à la nation d'Israël et qui constituent la fondation de toute nation civilisée. Il n'a pas non plus en vue les quelques centaines de règles qui constituent la loi de Moïse. Comme il s'adresse à ceux qui font partie de la famille de Dieu, il parle des exhortations qui parsèment le Nouveau Testament et qui doivent régir la relation des croyants entre eux et avec le Père. Par exemple, l'apôtre Paul écrit « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux, de cette manière vous accomplirez la loi du Christ, car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Vivez en paix entre vous, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. » Fin de citation. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien avoir un voisin qui vive de cette manière.